Bonjour à tous, ici Yacine, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9, c'est Le Gratin. Donc je suis toujours dans les rues d'Angoulême à l'occasion du Festival International de la Bande Dessinée. Je me dirige vers un café où j'ai rendez-vous avec Philippe Capard qui va nous parler de sa revue La Kryptonique et en particulier du numéro 12. A tout de suite. Donc voilà, je suis dans un bar du centre-ville d'Angoulême, donc en compagnie de Philippe Capard. Bonjour Philippe.
Salut Yacine.
D'abord, est-ce que tu peux nous parler brièvement de La Kryptonique ? Qu'est-ce que c'est La Kryptonique ?
La Kryptonique, c'est un magazine. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que c'est une librairie éditrice. Revenir à l'idée qu'un libraire, c'est pas juste un comptoir, mais ça peut aussi être un créateur de contenu.
Donc là, tu es au numéro 12 de La Kryptonique, le 12e numéro, donc ça fait 3 ans que tu fais ça maintenant. Quels sont un petit peu les sujets que tu traites dans chaque numéro, grossièrement ?
Il y a 13 numéros parce qu'il y avait un zéro, et chaque fois, il y a une chose qui me chipote, il y a une chose qui me passionne, et donc je m'appuie sur le stock énorme que j'ai de vieux papiers issus du magasin de Michel Deligne, qui était un magasin de vieux papiers incroyable, avec des romans photos, des bandes dessinées, des images de films. Et donc, de cet appui-là, j'essaye de développer des sujets qui m'intéressent en allant voir des personnes, en allant chercher des documents, en appelant des créateurs en collaboration.
D'accord. Donc, le dernier numéro s'appelle « Les patrons ». Donc, qu'est-ce que ça signifie, ces deux mots ?
C'est les patrons de la bande dessinée, donc il n'est pas question de Glénat ou de Delcourt ou d'un quelconque Casterman, mais plutôt des formats. La façon dont la bande dessinée, autant géographiquement qu'historiquement, a été proposée dans plein de formats. Il y a plein de standards. Chaque pays, chaque région, a ses habitudes de consommation de bande dessinée, ses habitudes industrielles. Et chaque fois qu'il y a un transfert de l'un à l'autre ou chaque fois qu'il y a des changements... Voilà, les patrons, c'est dans le sens patron de couture, c'est-à-dire c'est les coupes, la façon dont avec une feuille de papier, on arrive à un format, on arrive à une pagination selon la façon dont on le plie. Et la bande dessinée a été proposée dans une multitude de formats. Et la surface qu'on donne aux auteurs influe bien sûr le contenu. Si on donne 3 mètres carrés à un auteur, il va faire autre chose que si on lui donne 2 cm carrés. Et ça influe la création et la lecture.
Est-ce que tu peux un petit peu développer, alors sans être trop dans le détail, parce que les gens que ça intéresse évidemment liront ce numéro, ce que je les engage à faire, à une sorte de un petit peu d'historique par période, par exemple un petit peu les débuts de la bande dessinée qui est liée à la presse, notamment aux États-Unis dans les quotidiens.
Oui, c'est-à-dire que la bande dessinée au départ, il y avait dans la presse, c'était les presses étaient par feuilles. Et donc, c'était très lent, il n'y avait pas un débit énorme. Et puis, une fois qu'il y a eu les rouleaux de papier qui étaient directement liés aux machines, ça a été un fleuve, presque les chutes du Niagara version papier. Et tout d'un coup, le papier est devenu populaire. Tout d'un coup, il y a des journaux qui ont été publiés à des millions d'exemplaires, enfin des centaines de milliers, et puis finalement des millions. Et tout d'un coup, il y a une culture populaire qui a pu s'installer sur papier. Et donc, ils ont fait appel à des dessinateurs, à des artistes, pour habiller tout ça, pour faire de la publicité. Et ça a été l'essor le premier boom publicitaire correspondant au boom de la bande dessinée dans les années 1880-1890.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la bande dessinée et ses formats dans cette période-là en particulier ?
Ils avaient une surface énorme. Donc, c'était pas. Si vous connaissez le format tabloïd, qui sont la plupart des journaux gratuits maintenant, le journal américain était le double de ça. Parfois même encore plus grand, parce que les impressions avec rouleau de papier permettaient des très très grands formats. Et donc la surface de jeu pour ces auteurs était énorme. Et donc c'est comme s'ils avaient un terrain de football pour s'exprimer. Et ça a donné des créations d'une liberté de ton, de créativité, de fantaisie qu'on a parfois de la peine à égaler aujourd'hui par rapport à la surface d'expression que les auteurs ont.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que ces formats ont réduit progressivement le format de ces strips, de ces BD dans les quotidiens, dans la presse ?
C'est-à-dire que la presse a oublié que la bande dessinée leur amenait des lecteurs. petit à petit, ils ont oublié que le fait qu'il y avait Félix le chat dans leur journal faisait que les gens allaient vers ce journal-là plutôt qu'un autre. Et donc la taille, la largeur des colonnes dédiées à la bande dessinée se sont réduites. Donc ceux qui faisaient des aventures ou qui faisaient des gags ont vu la taille de leur terrain se réduire. Et donc petit à petit, ça a disparu. Ils ont perdu leur énergie, ils ont perdu leur enthousiasme. Et donc on est arrivé à des strips de 3 cases sur un format ridiculement petit. Et c'est devenu des têtes parlantes. Et donc ça a dégoûté, ça a vraiment perdu la force de la bande des débuts.
D'accord, mais après la bande dessinée a un petit peu quitté ces supports-là et a eu des supports autonomes, donc des revues de bande dessinée, des journaux de bande dessinée.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, je parlais uniquement du côté américain, de la façon dont les journaux ont évolué. Mais la bande dessinée est sortie d'être un supplément de presse ou d'être dans la presse pour devenir une publication autonome, un périodique autonome. C'est devenu les comic books ou chez nous, ça a été le journal Robinson, Hurrah, Mickey, qui étaient comme des suppléments de presse, mais sans le journal qui l'entourait. Et donc ça, c'est devenu autonome. Il y a eu les comic books qui sont un tabloïd découpé en deux. Et là, c'était des récits autonomes, des récits complets. Et c'était un autre rythme de production qui s'est fait en parallèle de la grande presse et qui ne se recoupe pas toujours. C'est-à-dire la plupart des gens qui ont fait des comic books, c'était des gens qui voulaient travailler dans la grande presse, qui voulaient avoir des strips qui soient vendus dans des centaines de journaux. Et pour eux, le comic book était un pis-aller. Ce qui fait qu'ils ont laissé leur place à beaucoup de jeunes gars qui ont débarqué sans a priori dans le comic book et qui ont vraiment remué le bazar aux États-Unis avec des Kirby, avec des Eisner, qui ont développé quelque chose de vraiment intéressant.
Avant de parler de ça, est-ce que tu peux un petit peu parler du système de diffusion des strips, justement, dans les quotidiens américains, notamment ?
C'est-à-dire qu'il y a les dessinateurs qui travaillent dans des bureaux de dessin, et ces bureaux de dessin avaient des agences qui replaçaient les dessins dans des tas de journaux. Donc c'était une sorte de kit de presse qui donnait à des journaux qui n'avaient pas l'argent, ni le temps, ni le talent d'avoir des dessinateurs dans leur périodique. Et donc ils achetaient clé sur porte des bandes dessinées, que ce soit Dick Tracy, Blondie, Tarzan. Et donc là, un dessinateur, tout d'un coup, vendait une de ses bandes dessinées dans 1, 10, 100, 1000 journaux, et parfois à travers le monde. Donc c'était une manne financière gigantesque.
Et donc, dans les comic books, au départ, il y avait moins d'argent.
Il y avait moins d'argent, mais ça a directement fonctionné. Donc, par exemple, le Superman, qui est très connu, qui était un des premiers comic books à succès, ça a été un tirage et un retirage et un re-retirage. Donc tout le monde s'est mis dans la file pour en faire. Donc, mais malheureusement, enfin, ça a été un peu au détriment des auteurs parce qu'eux n'étaient pas aussi bien protégés ou aussi bien assistés que dans les grandes agences de presse. Donc les droits des auteurs de comic book, je pense, étaient un peu désastreux. C'était un peu de l'exploitation.
La BD à ce moment passe à une sorte d'ère industrielle où le dessinateur, le coloriste, même l'encreur devient des éléments d'une sorte de machine.
Oui, enfin, ils sont exploités, mais comme ils ont été exploités dans la presse française, comme ils ont été exploités ailleurs, il y avait vraiment, ils étaient pour eux, c'était voilà un produit de consommation. Beaucoup d'auteurs ne s'investissaient pas dedans, dans le sens où ils n'étaient pas valorisés pour le faire. À Winsor McCay, à mon avis, il n'était pas payé à la case un prix dérisoire. Par contre, la plupart des auteurs de bandes dessinées des années 30, c'était vraiment lamentable, donc 30 et 40. Donc il y a un peu de ça qui se ressent. Et puis tout d'un coup, on a eu des auteurs comme un Hergé ou comme un Jacobs qui ont mis de l'ambition dans leur bande. Et ça a vraiment mis la bande dessinée sans dessus-dessous et a donné une vraie base à une bande dessinée qu'on connaît aujourd'hui d'auteurs.
À partir de quand l'album commence à devenir une sorte de standard et fait qu'il va proliférer et qu'il va y en avoir de plus en plus?
Il y a une chose qui se passe, et bon, c'est un peu symptomatique, c'est nouveau, je reviens avec Hergé qui a un peu la tarte à la crème, mais il y a un moment où pendant la guerre, il a commencé à redécouper ce qu'il avait fait dans la presse, pour les journaux, en pensant album, parce que Casterman commençait à faire des albums, le 20e siècle, le journal pour lequel il travaillait avait déjà fait des albums, ça avait bien marché, et donc tout d'un coup, c'était une manne financière importante, et il a commencé à travailler pour l'album, en sachant que de toute façon, ça allait être un album, donc c'est le basculement où l'auteur, plutôt que travailler à la petite semaine en fournissant sa planche hebdomadaire, tout d'un coup, il pense au début, à la fin, au livre qu'il va faire. Et donc d'un pigiste, d'un journaliste, il devient auteur de romans. Et on change de catégorie et ça bascule de la presse au livre.
Ça, c'était possible parce qu'il avait du succès, en fait.
Le tirage était assez important, donc il avait une assise grâce à la presse qui a permis que les albums aient du succès. Et ensuite, les albums ont eu un succès autonome, donc les deux s'alimentaient. Oui, tout à fait.
Je voudrais revenir un petit peu sur la presse et donc la diffusion en kiosque, et notamment sur l'époque des petits formats. Donc, est-ce que tu peux nous parler des petits formats et de cette prolifération qu'il y a eu, je crois, à partir des années 50 dans les kiosques en France ?
C'est-à-dire, le format poche est un format qui était déjà en gestation dans les années 30 au niveau des romans. On a commencé à faire des romans bon marché, accessibles à tous, donc des romans populaires. Et populaire, ça ne veut pas dire que tout le monde les aime, ça veut dire que tout le monde peut les acheter, que ce n'est pas cher. Et la bande dessinée a pris le train en marche un peu plus tard. Dans les années 40 et 50, ils ont commencé à faire des bandes dessinées de poche. Et donc, c'est devenu vraiment un média très puissant. Il y a eu des bandes dessinées de poche par milliers d'exemplaires. Et beaucoup de personnes, vu le coût, et qui y ont trouvé leur compte, parce que la pagination était beaucoup plus grande que les hebdomadaires. C'était des histoires complètes. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont tournées vers les livres de poche, que ce soit pour enfants au départ, Gérard Thomasien en parle très bien, qui tient le magasin Fantasmac, ou bien que ce soit pour adultes après, avec les Elvie France et toute la production adulte qui s'en est suivie dans les années 60 et 70.
Oui, surtout, c'était très peu cher.
Voilà, c'était très peu cher. Les dessinateurs étaient très peu payés, leur signature était effacée, c'était ingrat, mais dans ce fouillis, dans cette énorme masse de pockets, il y a à boire et à manger, il y a des choses tout à fait formidables qui sortent justement des standards de ce qu'on attend d'une bande dessinée, où on s'attend à un héros propre, à un héros modèle. Les premiers pockets adultes, par exemple, c'était pas adulte parce qu'il y avait du sexe ou des femmes nues, c'était adulte parce que le héros n'était pas un modèle. Le héros était un criminel et en finale, il s'en sortait. Et donc, la bande dessinée cessait d'être une sorte de modèle pour le lecteur, pour devenir simplement un truc autonome qui n'a pas besoin de dire au lecteur ce qu'il faut faire.
Alors pourquoi cet épisode quand même super important de la bande dessinée n'est pas très bien référencé ? Pourquoi il n'est pas très bien connu ?
On est tous formatés, et moi le premier, c'est-à-dire notre définition de ce qu'est une bande dessinée est liée à à nos lectures. Donc on est habitué à avoir une bande dessinée en main qui est à 4, qui est éventuellement hebdomadaire mais qui est souvent cartonnée. Et tout d'un coup on tombe sur des trucs à l'italienne en une bande ou on tombe sur des pockets. On considère que c'est satellite, on considère que c'est pas notre culture parce qu'il y a aussi un problème de caste. C'est-à-dire c'est les gens qui avaient le moins d'argent qui se tournaient vers le pocket. Et c'est les gens qui ont le plus d'argent qui écrivent l'histoire du média. Donc on a une vraie fracture et donc les gens n'en parlent pas ou ne l'évoquent pas parce que c'est passé sous le radar culturel. Alors que toute cette production a été lue par les créateurs, a été lue par les dessinateurs, a influencé les lecteurs, mais c'est resté sous le radar. Donc c'est une vraie injustice en fait pour ces créations.
Alors, au bout d'un moment, les pockets ont disparu et carrément, la plupart des journaux de BD ont disparu dans les kiosques et l'album, après, a carrément proliféré jusqu'à ce qu'on appelle, un peu de manière caricaturale, la surproduction.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de surproduction, c'est juste que ce qui était avant en mou est devenu dur. C'est pas très bien formulé, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les magasins de librairie, qui sont des magasins soi-disant de livres, sont finalement des magasins de périodiques parce que les livres qui font fonctionner ces librairies sont des périodiques, ce sont des albums que les gens suivent à un par an ou deux par an pour les séries les plus puissantes. Et donc en final, les librairies sont devenues des kiosques avec des magazines cartonnés. Donc on a biaisé un peu la donne pour finalement se retrouver dans ce qu'étaient les kiosques d'avant, mais avec des coûts d'achat énormes. On a perdu le fil populaire, parce que populaire, de nouveau, c'est pas parce que tout le monde aime bien. Populaire, ça veut dire que tout le monde peut s'en procurer.
Évidemment, tout ça, c'est un résumé un petit peu synthétique, mais puisqu'on résume grossièrement, vers où on se dirige maintenant ? Au niveau du format, parce que c'est un petit peu le sujet, le fil rouge de cette interview, quel est le futur ? Quels vont être les nouveaux formats, les nouveaux standards ?
Je ne sais pas, c'est-à-dire que bien sûr il y a le numérique qui débarque et qui bouleverse et qui est tout à fait une autre donne par rapport au format, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose en numérique, mais tout dépend de la plateforme, de la liseuse, de la personne qui va le lire. Donc les formats ne sont pas arrêtés comme le serait une publication papier où c'est un objet fermé. Mais ce qui se passe, et ce qui est assez génial, c'est qu'avec le numérique, les gens reprennent conscience que la bande dessinée était sur du papier avant et ils commencent à retrouver le plaisir du papier, le plaisir du format, le plaisir de la texture, le plaisir de l'encre, l'odeur. Donc cette immatérialité qui est apportée par Internet et par le numérique qui est géniale, hein, parce que ça permet un voyage des documents et des informations exceptionnel, mais à la fois ça permet de redécouvrir le support papier sans que ça oblige la bande dessinée à rester sur papier. Mais ça revalorise le papier. Et il y a beaucoup de gens qui redécouvrent la presse, qui redécouvrent l'impression, qui redécouvrent les modes, les différents modes d'impression, offset, risographie, sérigraphie. Et c'est plutôt de bon aloi.
Bah merci Philippe.
Merci. Merci à toi.
Salut.
Salut Yacine.
Thank you, Inspector. You don't know how grateful.
Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9, c'est toujours Le Gratin. Donc là, on vient d'écouter un extrait de la BO du film Diabolique par Ennio Morricone. C'était Last Laugh. Voilà, j'étais donc en compagnie de Philippe Capard. On a parlé du numéro 12 de La Kryptonique. Donc le plus simple pour se le procurer, c'est d'aller sur son site lakryptonique.com. Sinon, info, podcast, réécoute, etc. sur le site de radiocampusparis.org ou sur mon blog asso-artichaut.blogspot.com. Voilà, salut !